L'évangile de Jean, chapitre 20, verset 11. L'évangile de Jean, chapitre 20, verset 11. Nous sommes le jour de la résurrection de Jésus. Il est écrit ceci. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Et ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. La pauvre Marie de Magdala devait être complètement déboussolée par plus que les autres disciples. Pourquoi ? Rappelez-vous, Marie avait été délivrée de sept démons. Et on se met dans sa peau le jour où Jésus est arrêté, crucifié. Jésus n'est plus là. Elle trouvait la paix auprès de Jésus jusque-là. Et là, il n'y a plus rien. Et on sait que lorsqu'on a vécu une telle expérience, si la maison elle est vide, les démons cherchent à revenir. On imagine qu'elle est angoissée. Elle est complètement perturbée. Et on voit qu'elle n'est pas bien lucide dans le texte. Elle va prendre le jardinier, elle va prendre Jésus pour le jardinier. Elle va s'adresser à lui et elle ne le reconnaît pas. Elle dit un petit peu n'importe quoi, elle ne sait pas où elle est. Jusqu'à ce que Jésus l'appelle par sa voix. Elle est de dos, elle cherche, elle tourne, elle entend Marie. Et là, elle reconnaît cette voix du bon berger. Et immédiatement, c'est la paix qui vient. Jésus est vivant, Jésus est ressuscité. Je voudrais m'arrêter simplement sur cette question qu'elle a posée à Jésus en pensant que c'était le jardinier. Dis-moi où tu l'as mis. Et moi, je voudrais vous poser cette question. Dis-moi où tu as mis Jésus. Parce que Jésus, on peut le mettre à différents endroits. Vendredi matin, il y avait des obsèques sur des signes. J'y suis allé. Et ça a été pour moi l'occasion de voir des personnes avec qui j'ai grandi, avec qui on était à l'école du dimanche à l'époque. C'était un petit peu émouvant. Ça faisait un grand plaisir de les revoir, même si la circonstance était triste. Certains marchent avec le Seigneur. Leurs enfants se convertissent. D'autres, ils mènent une vie sans Dieu. Et je me dis, j'avais envie de leur dire à cela, mais souviens-toi de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as fait de ce que tu as entendu ? On entend parler de Jésus, on est marqué. Quand on est enfant, on entend sa parole, elle nous marque. Et je me disais, qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Jésus avait été mis au rayon des souvenirs d'enfance, dans les choses du passé. Et pour certains, c'est ça. Jésus, c'est dans les choses du passé. C'est radio nostalgie. Je crois que c'est une grande erreur de mettre Jésus là. Jésus, c'est pas radio nostalgie. Jésus, il est vivant et il est présent. Jésus, il veut être dans nos vies et il est celui qui peut nous accompagner tous les jours. Les disciples d'Emmaüs que Jésus recroisera, ils étaient un petit peu en train de mettre Jésus dans le rayon du passé. Nous espérions que ce serait lui qui nous délivrerait, mais voici ça fait. Vous voyez, ils étaient déjà en train de mettre Jésus au placard, si je peux parler comme ça. Mais ne mettez pas Jésus dans les choses du passé. Rappelez-vous qu'il est bien vivant. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et si on met Jésus dans les choses du passé, il ne peut pas faire grand-chose entre vie. Mais si on croit qu'il est vivant, qu'il est ressuscité des morts, alors là, il peut agir dans notre vie. Il y en a qui mettent Jésus dans la crèche. Pour eux, on vous dit, vous voulez où Jésus ? Vous répondrez, dans la crèche. Et bien sûr, c'est que le petit Jésus. Mais si c'est que le petit Jésus, alors il peut faire que des petites choses, et encore. Mais nous aimons dire que le tombeau, il est vide. C'est bien dire aussi que la crèche, elle est vide. Jésus, il est venu. Jésus, la crèche, pour lui, là, ça a été sa manière d'entrer. Mais il n'y est plus. C'était juste... Et je dirais, on s'émerveille devant la crèche, devant la naissance de Jésus, quand on comprend qui c'est qui est venu et dans quel but il est venu. Jésus n'est pas venu pour... il est venu pour accomplir l'œuvre du salut. Il est venu pour donner sa vie, pour mourir pour les pécheurs et nous sauver. Ne laissez pas Jésus dans la crèche. Ce Jésus-là, il ne peut rien faire dans votre vie. Et croyez qu'il est vivant. Jésus... Certains le mettent dans la boîte religion, que l'on ouvre à certaines occasions, au moment du baptême des enfants, au moment de la communion, et puis un jour au mariage, et puis aux obsèques. Voilà où on le met, Jésus pour certains. Mais ce Jésus-là, c'est mieux que rien, mais il ne peut pas faire grand-chose quand même. Récemment, j'ai eu cette demande sur le site de l'église. Bonjour, avec mon conjoint, nous nous marions le 3 août. 2019 à la mairie, et j'aurais aimé avoir une petite bénédiction ce jour-là. Ainsi, je souhaiterais savoir si vous faites cela. Alors, par politesse, j'ai répondu. Bonjour, c'est pas évident de répondre de manière juste. Bonjour, je vous réponds suite à votre demande sur le site de notre église. Ce ne sera pas possible car notre église évangélique, nous faisons des cérémonies de mariage seulement pour les couples qui fréquentent notre église et que nous pouvons accompagner. Je me permets quand même de vous livrer quelques réflexions que je fais habituellement dans ce genre de situation qu'est la vôtre. Un premier tiré, la bénédiction sur votre mariage ne dépendra pas d'une cérémonie, mais de votre manière de vivre selon l'Évangile. Et je vous encourage à vous attacher à Jésus-Christ. Et puis j'ai mis un autre tiré, aucun homme, prêtre ou pasteur, ne peut bénir une union. La bénédiction, c'est Dieu qui la donne, dans la mesure où l'on donne à Jésus-Christ la place qui lui revient. Et c'est aussi nous qui la construisons en plaçant Dieu au centre de nos projets, de nos rapports, de nos attitudes. Et puis j'ai terminé en disant ceci, vous souhaitez avoir une petite bénédiction, je vous souhaite d'en avoir une grande. Vu comme c'était tourné, c'était trop tentant de répondre, mais c'est tout à fait l'image que l'on donne à Jésus, la place qu'on lui donne. Voilà, de temps en temps, pour une cérémonie, on veut bien un petit peu donner un peu de place à Jésus. Mais ça ne va pas changer votre foyer, ça va, non. Jésus, il veut beaucoup plus que ça. Si dans notre conception, Jésus, c'est que ça, alors il ne peut pas apporter grand-chose. Pour certains, Jésus, il est sur un médaillon ou sur un crucifix. Certains en ont dans chacune de leurs pièces de la maison. Et on sait que là, c'est plutôt parfois même une approche superstitieuse. Mais ce Jésus-là, il ne peut pas faire grand-chose. Jésus, il n'est plus dans la crèche, il n'est plus dans le tombeau, mais il n'est plus sur la croix non plus. La croix, elle est vide. Et nous, si on bénit l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre de la croix. Ce n'est pas l'objet en soi auquel on attache de l'importance. Et puis, certains diraient, si on leur pose la question, où l'avez-vous mis ? Ils nous diraient, au tombeau, fièrement. Nietzsche a dit, Dieu est mort. D'autres l'ont dit, d'autres veulent le penser. Tous ceux-là sont morts, mais Jésus est toujours vivant. Et il est bien vivant. Si on posait cette question dans la rue, on nous répondrait souvent ça. Les personnes qui voudraient nous provoquer nous diraient ceci. Les athées nient pas l'existence de Jésus, parce qu'on est en 2019 après Jésus-Christ, mais ils nient sa résurrection. Et ils veulent nous dire que Jésus est toujours au tombeau. Mais le tombeau, il est vide. Selon un sondage fait il y a quelques années, 60% de ceux qui se prétendent chrétiens disent ne pas croire en la résurrection de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 40% n'en croient en la résurrection de Jésus. Donc ça veut dire que 40% n'y croient pas. Ces prétendus chrétiens croient que Jésus est encore au tombeau. Ça veut dire ça ? La Bible dit, si tu confesses le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et ne pas... Il faut absolument croire que Jésus, il est vivant. Il a triomphé de la mort. La mort, n'a pas pu le retenir, elle n'a pas pu le garder. Si Jésus est mort, il ne peut rien faire dans votre vie. Mais si vous croyez qu'il est vivant, alors il peut agir dans votre vie. Quand Marie pose la question à Jésus qu'elle prend pour le jardinier, elle cherche à récupérer un corps. Alors bien sûr, elle dit un petit peu n'importe quoi, je le récupérais. Elle pense peut-être que ce sont les Juifs qui ont emmené le corps. On ne sait pas trop ce qu'elle pense, mais elle pense récupérer un corps. Mais quand elle entend la voix de Jésus, qui lui dit « Marie », elle se retourne et dit « Rabouni, c'est Jésus ». À partir de là, Jésus est vivant et sera toujours vivant dans son cœur et dans sa foi. Une chrétienne revenait d'Israël, elle me disait « Le tombeau, il est vide ». Je disais « Je ne sais pas si vous avez vu le bon tombeau ». Mais ce qui est sûr, c'est que le tombeau, il est vide. Et oui, le tombeau, il est vide parce que Jésus, il est ressuscité, il est vivant. Moi, et je pense, nous, on aime cette parole des anges qui diront « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Souvenez-vous de ce qu'il vous disait, il est ressuscité. Et ne mettez pas Jésus au tombeau. Le tombeau, il est vide. Il est ressuscité. Alors, où faut le mettre, Jésus ? Juste avant, je voudrais donner ce témoignage dramatique qui s'est passé il y a quelques années au Brésil. Un groupe de jeunes gens en état d'ébriété est allé chercher une amie. La mère l'a accompagnée à la voiture et a essayé de la dissuader quand elle a vu l'état d'ivresse de ses amis. Et elle lui a dit que Jésus était assis dans la voiture. Et sa fille lui a répondu qu'il aille dans le coffre parce qu'il y a plus de place, il n'y a plus de place dans la voiture. Quelques heures plus tard, on apprenait qu'ils avaient eu un accident et qu'ils étaient tous morts. La voiture était méconnaissable, mais étonnamment, le coffre était intact. Et à l'intérieur du coffre, la police y découvrit une caisse d'œufs. Aucun d'eux n'avait été cassé. Jésus ne doit pas être mis dans le coffre, dans le tombeau. Il doit être mis dans nos vies, dans nos cœurs. Pour certains, Jésus, il est aux urgences. C'est quand ça ne va pas, alors on fait appel à Jésus. On a connu des personnes comme ça. C'est M. Pinguet qui me racontait un jour ce témoignage où, à l'imposition des mains, une dame est venue. Et elle lui a dit « Croyez-vous que Jésus puisse vous guérir ?» Il a dit « Bien sûr que je le crois, il m'a déjà guéri. » Et cette dame, effectivement, était venue quelques années avant, elle avait été guérie. Et maintenant, à nouveau, elle était malade, alors elle revenait prendre la guérison. Elle avait croit. Mais elle venait uniquement pour ça. Mais elle n'avait pas envie que Jésus change sa vie. Et ça, c'est dommage. Et parfois, on a beaucoup de personnes qui veulent d'un Jésus qui viennent les dépanner et qui viennent réparer les conséquences de leur faute. « Viens m'aider là, Seigneur, j'ai fait n'importe quoi. Viens me secourir ici. » Mais elles ne veulent pas que Dieu change leur cœur et leur vie. Ça, c'est mettre Jésus aux urgences. Mais si on met Jésus aux urgences dans notre vie, il ne peut faire que des petites réparations. Mais il ne peut pas changer notre vie. Je voudrais vous dire où Jésus faut le mettre. D'abord, Jésus faut le mettre au-dessus de tout. Il faut le mettre au contrôle de tout. Jésus, il est aux commandes. Et c'est bon de se le rappeler. Que sur cette terre, Jésus dirige. Même si ça n'y paraît pas. Même si ça paraît étonnant. Mais c'est Jésus qui est aux commandes. C'est lui qui gère cette planète. C'est lui qui gère les nations. C'est lui qui gère les saisons. Il est maître de tout. Et il est aux commandes. Il gère les nations. Il gère les grands de ce monde. Il gère la géopolitique. Et il gère en même temps ma vie. Et ça fait du bien de savoir que celui qui gère les grandes planètes, les grands de ce monde, il gère aussi notre vie. Et combien c'est important de placer Jésus comme Seigneur, au-dessus de tout. Et la foi en Jésus consiste à donner à Jésus cette place au-dessus de tout. Et puis Jésus, il faut le placer dans son cœur. Le cœur, c'est quoi ? C'est la source, c'est le centre, c'est notre conscience, c'est nos désirs les plus profonds. C'est là que Jésus doit être mis, parce que c'est le cœur qui dirige tout le reste. Le problème du cœur, c'est que lui aussi est atteint par le péché. La Bible nous dit que sort du cœur des mauvaises choses. Le cœur est gangréné par le péché. Et c'est impossible à l'homme de pouvoir le changer. Il a beau essayer, beau des fois prendre certaines décisions, il ne peut pas se changer lui-même. La seule possibilité pour changer son cœur, c'est de permettre à Jésus d'y venir. De venir à l'intérieur de nous-mêmes, dans la conscience, dans les désirs les plus profonds. Et Jésus est capable d'y aller. Il est capable d'aller jusqu'à la frontière du conscient et de l'inconscient. Même parfois de faire passer de l'inconscient dans le conscient. Il est capable d'agir et de purifier la conscience. Il est capable de changer nos désirs. Il est capable de changer nos aspirations. Il va jusqu'à changer nos émotions. Il change tout. Il purifie tout. Il lave tout. Jésus est capable de le faire. C'est là qu'il faut le mettre. Jésus a dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Et là je dis la porte de votre cœur. Jésus se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Est-ce que tu vas le laisser rentrer ou est-ce que tu vas le laisser dehors? Jésus il veut être dans votre cœur. Il est Seigneur au-dessus de tout et il veut être le Sauveur. Jésus-Christ a donné sa vie. Et ce qu'il a fait, il veut l'apporter dans notre cœur. En donnant sa vie sur la croix, il a rendu possible notre salut. Mais le salut n'est pas automatique. Il faut accepter Jésus comme Sauveur. Dis-moi où tu l'as mis. Et moi, je te conseille vivement de le mettre au-dessus de tout, Seigneur, et de le mettre dans ton cœur, d'accepter Jésus comme Sauveur. On va le prier maintenant.